Pluriel Gay, une émission présentée par Gérald.
Gérald, c'est moi, et elle, c'est Vic. Vous ne la voyez pas, elle est à mes côtés, du comité lesbien lyonnais.
Collectif lesbien.
Du collectif, ah, mais j'y arriverai jamais. Alors, soit j'inverse, soit des fois je dis collectif lyonnais lesbien, puis après je suis arrivé à me dire quand même que ce qui était plus important, c'était le lesbien que le lyonnais, finalement. Donc, alors ça, c'est bon. Mais alors, collectif lesbien lyonnais, il faut que je m'y mette, collectif. Un collectif lesbien lyonnais. Je vais y arriver. Un jour, j'y arriverai, je le sais. Bonsoir Vic, merci d'avoir répondu à mon invitation. Nous, on aime bien les filles, sur Pluriel Gay, malgré le nom gay. Hein, le gay, ça évoque tout de suite que les gars. Mais nous, on aime bien avoir des filles, des trans et plein de gens parce qu'on considère que nos luttes sont transversales aussi. Mais on sait aussi qu'il y a parfois des points d'achoppement hein, entre nous. Bon, c'est normal, c'est logique. Dans la communauté, il y a aussi des gens qui, ne sont pas toujours très communautaires, justement. Donc, comme tu sais, j'avais ma petite collaboratrice Lolo, Laurence, mais en ce moment, bon, elle s'est retirée un petit peu de la radio. Voilà, donc on donnera des nouvelles à l'occasion, mais on n'est pas fâchés du tout. Hein, voilà, juste pour l'instant, elle préfère rester chez elle. Voilà, mais à l'occasion, je donnerai des nouvelles. Voilà, donc du coup, il n'y avait plus que des mecs. Voilà, donc à l'émission, je me suis dit, il faut absolument que je réinvite le collectif, parce que le collectif, vous êtes quand même venus souvent, les filles, pour ici. Et moi, je tiens à ce que vous soyez présentes régulièrement pour parler d'actualité femme, lesbienne, féministe, éventuellement queer aussi, voire trans. Mais nous avons reçu Florence des Jardins d'été aussi. Hein. Aussi, la parole trans, pour nous, c'est important. Donc, du coup, avant de commencer de lancer l'émission, parce que tu es venu avec une foule d'actualités concernant le C2L, concernant les filles à Lyon, il y a une chose dont je voulais parler avec toi, parce que ça tombe très bien finalement, parce que l'actu est... lesbienne est intéressante en ce moment, il se passe des choses, et notamment au Portugal. Alors, le Portugal, le Parlement portugais a ouvert la PMA... aux femmes, alors aux couples de femmes. Donc, en fait, au Portugal, ce qui s'est passé, comme tu dois le savoir, ils ont d'abord voté, il y a 5 ans à peu près, je ne sais plus exactement, le mariage pour l'équivalent de mariage pour tous, mais sans l'adoption, sans la PMA, sans GPA, sans rien du tout, juste le mariage. Après est venue l'adoption pour les couples de même sexe, qui a été autorisée, et puis maintenant, très récemment, c'était il y a à peine une semaine ou deux semaines, le Parlement portugais a donc voté une loi qui ouvrait la PMA aux femmes, quelle que soit leur situation, que ce soit les femmes seules, par exemple, les familles monoparentales ou les familles homoparentales de femmes qui veulent avoir des enfants. Et ça, je trouve ça bien, personnellement. Et même que la GPA a été ouverte un petit peu, mais bon, dans des conditions beaucoup plus limitées, pour les femmes qui ont des problèmes physiologiques de procréation. La GPA a été donc légalisée également en Portugal. Moi, la réflexion que je me suis faite, Vic, c'est je me dis, bon, le Portugal, tout comme l'Espagne, sont des pays de tradition chrétienne, catholique, beaucoup plus implantée que chez nous, je trouve. En tout cas, nous, on nous dit que nous sommes un pays laïque. Portugal et l'Espagne aussi le sont, mais avec une imprégnation de l'Église catholique qui est beaucoup plus forte chez nous. Ça, c'est indéniable. Et pourtant, c'est deux pays qui arrivent à faire mieux que nous. Par exemple, le Portugal, ils font mieux que nous, puisque la PMA est autorisée. Alors moi, je me dis, d'où viennent les blocages en France? Pourquoi ça bloque en France, nous, le pays de la laïcité, séparé de l'Église, etc. Parce que c'est avant tout un problème religieux, à quelque part. Hein. C'est des concepts religieux qui entrent en ligne de compte contre la PMA.
Ouais, je pense que c'est beaucoup de conservatorisme, quoi. Enfin, la France est très conservatrice, quoi.
Finalement, oui, on l'a vu pour le mariage pour tous.
Je pense que, contrairement à l'Espagne ou au Portugal, enfin, oui, comme tu dis, c'est des pays où il y a une grande influence des églises catholiques. Mais je pense qu'ils ont beaucoup le sens de la famille qui est implanté aussi, et du coup, c'est important pour eux, je pense, plus qu'en France. Et ils ont moins, ouais, cet esprit, je pense... conservateur, traditionnel, liste, de... parce que qu'est-ce que ça remet en question, en fait? Ça remet en question tout simplement ce qu'on dit de... pour moi, ça remet en question le mariage, ça remet en question la procréation, ça remet en question tout ce qu'on pose sur un couple, en fait, sur un deux, sur la... et qu'on veut à tout prix... aussi imposer un modèle de ce qui est soi-disant naturel et contre-naturel, mais C'est des idées, enfin.
Ouais. Oui. Oui, de toute façon, le principe même du conservatisme, c'est de conserver une sorte de d'acquis, je veux dire, qui serait soi-disant immémorial, intangible, inchangeable. Mmh. Et puis progressiste, ben c'est les personnes qui vont chercher à suivre le mouvement, enfin suivre le mouvement. C'est comme si un peu on dirait, par exemple, on disait soigner les maladies, ben c'est contre nature finalement, puisque c'est la nature qui nous envoie les maladies. Mais il y a eu l'intervention de l'homme pour soigner, donc là c'est pareil, il y a quelque part, hein, il y a maintenant beaucoup de possibilités, et on sait que la procréation, d'abord la sexualité n'est pas toujours liée à la procréation d'une part, et d'autre part on peut procréer de différentes manières et créer des familles différentes, voilà.
Je dirais que c'est vraiment culturel, enfin, moi, j'ai l'impression.
Oui, voilà, c'est ça. C'est comme le divorce, par exemple, qui a été très long à s'implanter dans beaucoup de pays. Hein, il y a, pour une époque, le divorce, et les femmes divorcées ou les hommes divorcés, d'ailleurs l'Église toujours ne leur refuse le mariage à l'Église, s'ils se remarient, etc., la confession, etc.
Ça a accepté de nouveaux modèles de famille, de deux, de trois, de quatre.
Hein. Voilà, c'est ça, exactement. Il y a plein de possibilités.
D'élever des enfants aussi.
D'élever des enfants, absolument.
En coparentalité, pourquoi pas.
Il y a plein de possibilités qui existaient avant, mais qu'on taisait ou qu'on mettait de côté, ou qu'on... comment dire, on l'a empêché de s'exprimer, en fait. Hein, parce que dans d'autres cultures, la culture chrétienne, par exemple, il y a d'autres façons d'élever les enfants. Dans les cultures africaines, par exemple, on a souvent l'occasion d'en parler, des enfants qui appartiennent à la collectivité, etc., qui sont élevés en commun, dans le village, etc., par tout le monde, en quelque part. Bon. Mais enfin bon, faut pas effacer 2000 ans comme ça, ou plus même.
C'est beaucoup de peur, quoi. Voilà. Après, je pense que tout ça aussi, ça va changer. Notamment, moi, j'ai beaucoup d'espoir avec la prise en considération des droits des trans et le changement d'état civil facile, libre et sans ordonnance et tout ça. Et je me dis, si on arrive en France à ce que les trans prennent de plus en plus de place et soient de plus en plus reconnus par la société, moi j'ai l'impression que tout le reste va sauter, quoi.
Tout le reste suivra.
Parce que c'est une grande avancée, quoi.
Ouais. Néanmoins, la PMA au Portugal, c'est quand même assez symbolique, je trouve, de ce qu'on peut faire, de ce qui peut se passer, de ce qui peut arriver. Et c'est bien, c'est bien. Alors, en ce qui concerne le droit des trans, effectivement, on a parlé la semaine dernière, on a évoqué le sujet avec nos invités de la semaine dernière, les Invisibles de Stonewall, Tanguy Dufournet, puis deux élèves en sociologie, deux de ses élèves en sociologie à Lyon 2. Et on disait que beaucoup d'associations quand même ne sont pas satisfaites de ce qui est considéré par certains, présenté comme une avancée, qui n'est pas tout à fait une grande avancée en tout cas.
Mais il y a un manifeste là qui vient d'être rédigé par Acceptes Trans de Paris. Et du coup, le collectif lesbien est signataire aussi ce manifeste et qui justement demande... il n'est pas du tout en accord avec l'amendement qui a été
finalement voté, quand même, la semaine dernière, mais qui nécessite quand même, qui ne laisse pas beaucoup d'autodétermination à la personne, en fait, de liberté à la personne trans en elle-même, qui est toujours soumise à l'extérieur, en fait.
Et puis qui, du coup, les associations trans n'ont pas été consultées, en fait. Ça a été l'Inter-LGBT et Amnesty International, et du coup, c'est pas des gens qui sont directement... En contact avec les trans, en fait.
Et sensibiliser à la question trans. Mm. L'inter-LGBT, ça ne devrait pas être le cas, mais malheureusement, c'est le cas. Ils sont pas très... Bon, on ne dira rien sur l'inter-LGBT. On a déjà eu l'occasion de critiquer un petit peu l'inter-LGBT. On aura d'autres occasions de le faire, je pense. Mais peu importe, là n'est pas le sujet. En tout cas, oui, les questions trans sont portées par des gens qui ne sont pas concernés. C'est bien dommage, effectivement. En tout cas... Autre actualité très intéressante qui concerne les femmes, le féminisme et l'homosexualité féminine, c'est Thérèse Claire. Alors Thérèse Claire, Sébastien Lifitch, celui qui avait réalisé déjà au préalable un documentaire s'appelait Les Invisibles, et puis aussi un documentaire sur Bambi, femme trans justement, une des pionnières de la cause trans, je dirais, en tout cas de la visibilité trans. a réalisé un reportage avec Thérèse Claire, je ne dirais pas sur Thérèse Claire, mais avec Thérèse Claire, quelques mois avant son décès, donc, puisqu'elle est décédée en février de cette année. Thérèse Claire, donc, qui est une grande féministe, homosexuelle, et qui, toute sa vie, a porté le combat féministe, mais de façon... avec beaucoup de tact, je dirais, beaucoup d'humilité. Et sa dernière grande action, je dirais, a été la création d'une maison de retraite autogérée par des femmes.
Les Baba Yaga.
Voilà. Ouais. Alors, ce qui est amusant, entre guillemets, c'est qu'ils ont reçu des subventions de la ville de Montreuil, puisque c'est à Montreuil, dans la région parisienne. Mais par contre, le conseil général de Seine-Saint-Denis a d'abord refusé de donner une subvention parce que c'était justement discriminant. C'était, un projet discriminant dans la mesure où c'était un projet réservé aux femmes. Alors, je crois savoir qu'ils sont revenus sur leur décision un peu plus tard. Ils ont alloué une subvention. Et qu'est-ce que ça t'évoque, toi, quand on parle de discrimination parce que seules des femmes peuvent accéder à tel ou tel lieu, par exemple? Alors, qui disent « Ouais, mais c'est une discrimination à l'envers, finalement.
» Ah, on parle de la non-mixité.
Voilà, la fameuse non-mixité.
Elle est importante, la non-mixité. Elle est importante qu'elle soit reconnue par tout le monde, autant les hommes que les femmes, d'ailleurs. C'est des espaces après il y a différentes non-mixités, mais par exemple dans une non-mixité de femmes choisies, c'est un espace où les femmes ont besoin de se rassembler, de justement retrouver leur sororité et aussi d'espaces qui existent sans le patriarcat, sans la domination, sans... Et ça fait du bien, quoi. dernièrement, on a fait... Enfin, le collectif des lesbiens a participé aussi à une marche féministe.
Qui est organisée toutes les années, je crois, à Lyon, depuis quelques années.
Et du coup, il y a l'objectif d'être plus visible et du coup d'en organiser plusieurs dans l'année. Et où la mixité choisie a beaucoup été discutée. Et au départ, c'était une mixité choisie en meuf, Gwyn... entre parenthèses, cis et trans. Et après, on a inclus tous les trans, y compris les trans boys et trans to no. Voilà, ça a été discuté. Il y a eu aussi une discussion avec Chrysaline. Et après, ça a été finalement une mixité sans mec cis. C'est-à-dire que on a évolué, en fait, dans la réflexion de la non-mixité. Et de fait, la mixité sans mec cis incluait les intersexes. Aussi.
Inclus les intersexes. D'accord.
Ouais. Et ça paraît c'est important parce que aussi ils sont assez invisibles en fait dans la société.
Ouais. Donc c'est-à-dire mixité choisie, en gros, si on résume, seuls les hommes cisgenres
sont exclus.
D'accord. Ceux qui ont le pouvoir. En fait.
le patriarcat, la domination.
Bien. Alors, pour revenir à Thérèse Claire, donc Sébastien Lifitch a réalisé ce reportage qui a reçu donc le prix de la Queer Palm 2016. Le Festival de Cannes vient de s'achever. Et comme tu le sais, toutes les années, depuis quelques années, il y a la Queer Palm qui, en parallèle du Festival de Cannes, décerne un trophée donc à une œuvre cinématographique qui se rapprocherait le plus des thématiques LGBT, du queer, du genre, etc. Et là, en l'occurrence, c'est le documentaire de Sébastien Lifitch qui a été présenté à Cannes. Sur Thérèse Claire, qui s'appelle Les Vies de Claire. Les Vies, V-I-E-S, donc vie au pluriel, parce qu'elle a eu plusieurs vies, on peut le dire. C'est vrai. Et elle a commencé une vie qui n'était pas la sienne, parce qu'on on l'a forcée, on l'a mis dans le carcan, hein, ce qu'on évoquait au début, hein, d'une vie bien rangée, avec mère de famille, voilà, la femme dans la cuisine, l'homme au travail, hein, où il rentre, il lit son journal. Non, mais je caricature, mais c'est un peu ça. Hein. Et puis, c'était un peu ça.
Mais t'es pas loin, hein, parce que dans les années, comme elle dit, elle est née dans les années 20, je crois, donc elle dit à 20 ans, dans les années 40, c'était ça. Ouais.
Elle est née à une époque où les femmes n'avaient pas le droit de vote, les droits des femmes étaient très limités, n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque, etc. Donc c'était vraiment... Et moi, je me souviens d'un reportage, alors assez ancien, que j'avais vu à la télé. C'est là que, c'est ce reportage-là qui m'avait fait connaître Thérèse Claire, mais c'est un reportage que j'ai vu il y a au moins une trentaine d'années. Un reportage, je ne sais plus sur quelle chaîne, qui était consacré à l'homosexualité féminine. Alors, je ne sais pas s'ils avaient rajouté ce douloureux problème, parce qu'à l'époque, c'était encore un peu ça. Mais en tout cas, il y avait Thérèse Claire, à un moment donné, qui était interviewée. C'était très intéressant parce qu'elle disait, moi, quand j'ai voulu apprendre à conduire, par exemple, qu'elle était donc mariée, encore mariée, mon mari m'a dit, mais quand on s'appelle Thérèse, c'est pas la peine d'apprendre à conduire. D'un air de dire, de toute façon, une femme n'a pas à, voilà, wow, à conduire. Et puis un jour, Thérèse s'est libérée, enfin, et elle est partie, elle a volé de ses propres ailes, et puis surtout, elle a vécu la vie sentimentale dont elle avait envie, qui était le sien, qui était sa nature. Et puis aussi, elle a milité beaucoup, justement, pour le droit des femmes, ayant été la première concernée par les problèmes liés au patriarcat et aux lois patriarcales qui étaient encore en vigueur à l'époque. Donc elle fait partie de ces femmes qui ont été pionnières un petit peu, hein, dans la lutte féministe. Et j'ai retrouvé sur YouTube alors une petite interview très courte qu'elle avait accordée donc pour un site internet qui s'appelle savoirchanger.org. Je trouve que c'est joli, savoir changer en plus comme nom. Elle a su changer à une époque où c'était beaucoup plus difficile que maintenant encore. Et c'est des petits extraits d'une interview qu'elle avait accordée. On va l'écouter. Et puis après, on reviendra sur Thérèse Claire, Bernardo.
La vie de femme a été la vie tout à fait ordinaire de Madame Tout-le-Monde. J'ai été élevée dans la religion catholique par des parents de droite et même d'extrême droite. Mais c'était des parents tendres, aimants, généreux. Donc, j'étais trop petite pour évaluer et juger la politique dans laquelle ils m'emmenaient. Et puis j'allais à l'église parce que mes parents étaient catholiques. Donc j'allais à l'église, j'y ai trouvé des gens sympas, mais j'y ai trouvé surtout une église dogmatique qui n'avait pour moi pas grand intérêt. Et après je me suis mariée, j'ai changé de quartier, j'ai été dans un quartier à Paris, dans l'est de Paris, un quartier beaucoup plus pauvre. J'y ai rencontré des prêtres ouvriers et j'ai appris Marx à l'église. Je suis devenue une femme de gauche à l'église, ce qui est un petit peu rare. Donc après j'ai commencé à militer. Mon premier mouvement militant a été le mouvement de la paix qui existe encore, qui est un petit mouvement pas bien méchant, mais qui déjà m'a appris la vie du collectif, la parole collective, des gens très intelligents. J'ai rencontré des gens très très intelligents et comme j'avais pas été beaucoup à l'école parce que j'étais une mauvaise élève, ces petits mouvements de gauche, ça a été ma véritable université. Et puis est arrivé mai 68, ça a été l'insurrection, la résurrection, ça a été le bonheur, l'insolence, vouloir la vie autrement, changer le monde, ça a été tout cela. Et ça a été 10 ans que je ne revivrai probablement plus jamais, mais 10 ans qui ont changé la vie et la société, et nous n'étions plus tous jamais pareils à ce que nous étions avant. C'est comme les vieilles masures, il y avait avant, et puis après mai 68, il y avait après. Et d'un seul coup, quand on dit que les femmes étaient laides, mal baisées, les féministes, j'ai entendu des choses pas possibles. Et moi, je dis qu'on avait toutes pris des gueules de vraie liberté. Et la gueule de liberté, ça se reconnaît tout de suite chez les femmes. Elles marchent droit, hautes et fières, elles redressent les épaules. Et elles sont toujours en train de gagner leur propre autonomie et leur propre liberté. J'ai déjà créé la Maison des Femmes à Montreuil. Je suis une vieille féministe convaincue de la lutte, parce qu'aujourd'hui le sort des femmes n'est pas vraiment excitant. Et à un moment où le mouvement des femmes en France commençait un peu à plafonner, si je peux dire, j'ai pensé à monter un lieu pour les femmes, où elles pourraient pousser la porte et venir, un lieu libre, où elles pourraient dire tout ce qui leur plaisait, tout ce qu'elles voulaient, sans craindre un regard extérieur, sans craindre n'importe quoi. À la Maison des Femmes, elles sont protégées. Et elles le savent, donc elles viennent, elles y trouvent de la culture, elles y trouvent de la formation, elles y trouvent une consultation juridique. Le but est quand même de les rendre conscientes, c'est-à-dire de leur dire, madame, vous avez des droits, et il faut les faire vivre. il faut encore ajouter de militer pour avoir de nouveaux droits. J'avoue que le mouvement des femmes, j'en ai un petit peu assez de voir toute la misère des femmes, d'entendre toute la violence des femmes. Oui, ça existe, oui, c'est vrai. Mais ce que j'aime aussi, c'est que les femmes soient dans le positif, qu'elles puissent dire, quand je les entends pleurnicher sur tous les malheurs de leur vie, je leur dis, allez, on arrête. Qu'est-ce qui vous a rendu heureux cette semaine? C'est à ça qu'il faut s'accrocher et préparer le bonheur de la semaine suivante. Et je vous assure que ça va être une aide puissante pour changer et votre vie et la vie de votre entourage. Alors ça, le social du DIC, c'est aussi un peu ça. J'ai changé profondément ma vie et je pense toujours aux Écritures. À un moment, on dit, après la résurrection, les apôtres, ils ne l'ont point reconnu. Eh bien, moi, je suis une ressuscitée de la vie conjugale. Chacun sait que le mariage est une mauvaise action. Donc, j'ai quitté la mauvaise action et je suis rentrée dans la bonne action du célibat très habité, c'est vrai. Et en 68, nous avons toutes essayé un peu de l'homosexualité, même si nous n'étions pas de naissance, c'était pas notre choix sexuel de naissance. Mais nous avons pensé que pour être radicale, il fallait quitter l'homme jusque dans la sexualité. Et effectivement, l'homosexualité pour nous les lesbiennes, est devenu politique. Alors effectivement, ça fait rigoler un peu les petites jeunes aujourd'hui, parce que nous lui disons, c'est de l'ordre du désir, du plaisir. J'ai dit, oui, c'est en plus. Mais quand même, quitter les mecs jusque dans l'intime, c'est profondément politique. Et on ne m'a pas reconnue. Moi, la petite dame Chanel, en tailleur, en petit tailleur, et en escarpin cousu main, ma chère, en collier de perles, j'ai foutu tout ça par-dessus les moulins, et j'ai mis des grandes robes, je me suis habillée un peu drôle, et j'ai osé. Voilà, c'est un très très beau verbe. L'autre jour, j'ai fait une prestation chez les éducateurs et je leur dis, vous savez, il y a trois verbes magnifiques dans la vie. C'est rêver. Rêver est ce qui concourt à l'utopie, parce que l'utopie est la fille du désir. Et le désir, les rêves sont effectivement les objets du désir. Et après, c'est oser. Oser est un très beau verbe. Oser, on se met tous ensemble et on ose quelque chose qu'on n'avait jamais osé. Et le troisième, c'est créer. Créer sa vie, créer la société et créer la vie des autres. Et ça, c'est lumineux. Et à 83 ans, ça me semble vraiment le nec plus ultra de toute vie.
Pluriel, 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 pluriel.
Yeah. Voilà, c'est Thérèse Claire dans le texte.
Elle est forte, hein, elle est puissante.
Oui, c'est vrai. Et puis toujours avec... elle n'est pas dans la confrontation, elle assène pas les choses, elle est toujours humble, je trouve. Ouais. Alors quand elle dit que l'homosexualité est politique, et l'homosexualité féminine notamment est politique, est-ce que tu es d'accord avec ça?
Oui. pas que, je pense. Mais il y a aussi une préférence de par quel corps on est attiré et aussi sentimentalement. Mais en tout cas, oui, ça peut le devenir. Et c'est clair, en tant que féministe, pas toutes les féministes sont homosexuelles, mais il y a quand même beaucoup de féministes aussi qui le sont. Et c'est aussi un choix politique de ne pas contribuer au patriarcat et de rester entre femmes et d'entretenir cette sororité, de construire ensemble. Et comme elle disait, elle parlait du désir de oser créer. Et pour moi, c'est clair, on doit se réapproprier et réapprendre ces trois notions en tant que femme et notamment à converger ensemble les femmes parce qu'on a toujours cherché et même encore aujourd'hui au sein de nos luttes, nos collectifs à nous diviser, à que ça soit par aussi j'allais dire la jalousie mais par aussi les luttes enfin j'ai l'impression que le patriarcat nous a jamais appris à converger ensemble. Il nous a toujours plutôt fait croire qu'on était toujours entre guillemets des rivales quoi et je le vis dans mes luttes aujourd'hui et différents collectifs et j'ai vraiment envie par exemple personnellement d'apporter ça dans nos collectifs féministes lesbiens et vraiment une force de convergence et je pense que ça peut être très beau et très fort et ça peut faire beaucoup peur au patriarcat, donc le patriarcat fait tout pour nous empêcher de converger ensemble mais on va y arriver.
La lutte n'est donc pas terminée. En tout cas, les vies de Thérèse, par Sébastien Lifshitz, il faut surveiller la sortie sur les écrans parce qu'il faut le voir, je pense. Oui. Ça doit être très intéressant parce que le personnage de Thérèse Claire est attachant. Et voilà, tout simplement. Hein, et que c'est une grande dame.
Oui.
Voilà, alors on va écouter un premier morceau de musique, puis ensuite on reviendra donc sur l'actualité du C2L, donc du collectif Lesbiens Lyonnaises, j'y suis arrivé.
Oui.
J'ai noté d'une pierre blanche, j'y suis arrivé. Donc, on va, alors, la programmation musicale, c'est toi qui l'as choisi, ouais. qui l'as faite. Alors, on va écouter un premier morceau. Alors, quel est le premier morceau, Bernardo? Au lieu de dormir, Bernardo.
Alors, c'est Elliot Sommer qui nous chante Species. Ou qui nous interprète Species.
Species. Alors, Elliot...
qui est la fille, quand même, oui. transgenre de Sting.
J'ignorais complètement, mais c'est fort intéressant. C'est parti.
Provide me with a tide.
Pluriel gay. L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Et bien voilà, nous sommes de retour avec Vic du comité... Ah non, je ne vais pas y arriver, hein, du collectif Lesbiens Lyonnais, c'est bon. C2L, c'est mieux comme ça, C2L. Ça,
on est un collectif, on n'est pas un comité d'entreprise, voilà. On est un collectif, on est solidaire.
Vous êtes solidaire, collectif Lesbiens Lyonnais. Un jour, j'y arriverai, un jour. Donc maintenant, on va parler un petit peu plus de l'actualité du C2L. Justement, alors l'actualité a été assez abondante récemment, ouais. Encore, puisque tu sais, il y a deux semaines, j'ai reçu, j'ai eu au téléphone, il y a deux semaines, c'est la semaine dernière, au téléphone Julie Grisola,
ouais.
Qui est une des organisatrices du festival Transposition qui se déroule encore actuellement à Annecy.
Oui.
Donc elle nous a parlé un petit peu du festival. Et il se trouve que des associations lyonnaises ont été conviées au festival, dont le C2L et aussi FRIS, l'association FRIS.
Oui. Mais du coup, c'était le 19 mai qu'on est y allé pour la soirée. Il y avait une projection militante avec notamment, il y avait deux films. Il y avait Le Cercle de Stéphane Haupt sur l'organisation suisse homosexuelle. C'était très intéressant. Et aussi, il y avait le film de Stéphane Gérard qui est sur l'histoire des luttes LGBT, qui s'appelle « Rien n'oblige à répéter l'histoire », qui est un film, en fait, expérimental, queer. Et il est allé, Stéphane Gérard, aller interviewer, par exemple, les archives lesbiennes de New York. Il est allé interviewer aussi des collectifs queer. Il est allé à l'origine, en fait. Il a voulu... savoir les origines du mouvement LGBT et aussi aujourd'hui comment ces collectifs sont actifs. Et à la fin de la projection, il y avait effectivement une intervention sur les luttes LGBT avec le collectif lesbien FRIS, AIDS d'Annecy et le réalisateur. Et... On a bien parlé aussi... de notre actualité, de comment converger ensemble aujourd'hui dans ces luttes-là, LGBT. Il y avait aussi le collectif lesbien qui a apporté l'exposition Stonewall lors de la journée d'ouverture du festival. Il y a eu une bonne discussion vraiment sur aussi les émeutes de Stonewall, aussi sur aujourd'hui, est-ce que les LGBT sont toujours aussi engagés par exemple lors des marches de fierté ou est-ce que c'est un peu plus lobbying, un peu plus finalement est-ce qu'on n'a pas oublié nos luttes d'origine ? Où justement on était quand même vachement plus... j'étais pas encore née. mes prédécesseurs étaient vachement plus open dans une façon de vivre, pas forcément mariée, dans une façon de vivre à deux, à trois, on va dire plutôt polyamoureuse. Ils voulaient pas forcément des enfants et du coup, où on en est tout ça militantivement, quoi. Est-ce qu'on se fait pas finalement... absorbé par aussi tout cet hétéro-patriarcat de se marier, avoir des enfants, faire une famille classique, on va dire. Et c'est important de se poser ces questions, il me semble.
Donc, il y a eu beaucoup d'échanges. Comment ça s'est passé ?
Eu pas mal d'échanges.
Ouais.
Aussi avec le public. En tout cas, c'est un festival qui a été monté par trois filles, donc ouais. C'est chouette. Et c'est un festival à promouvoir, quoi. Vraiment, moi, j'ai trouvé ça bien, le fait que, justement, c'était sur 10 jours et sur chaque journée, il y avait un thème. Un thème d'acte, un thème gay, il y avait soirée militante, il y avait soirée queerotique qui a été annulée, malheureusement, mais... Et là, il reste 3 jours de festival,
ouais.
Avec la clôture qui est le 28 mai. Donc, on fait un peu de la pub, les copines.
Oui, oui, non, mais...
Et du coup, pour la clôture, il y a Mansfield Tia en groupe, il y a Louise Roam qui est de Paris, et il y a deux DJ aussi. Donc voilà, on leur souhaite le meilleur.
Oui. Alors c'est un festival, donc ça se passe à Annecy, dans la région d'Annecy, en plusieurs lieux de l'agglomération donc d'Annecy. Et c'est un festival effectivement qui a une durée assez longue puisque c'est sur 10 jours.
Oui. Hein.
Voilà, mais c'est très bien.
Une grande programmation, oui.
Voilà. Donc ces deux ailes donc étaient sur le front du festival Transposition.
Tout à fait.
Et il y a d'autres fronts encore.
À venir, oui. Il y a la quinzaine des cultures qui approche. Du coup, du 24 juin au 9 juillet.
Oui.
Et le collectif Lesbien, en partenariat avec Isabelle Santis, on va exposer un récit photographique sur Isabelle Salem Diego Santis, qui en fait va retracer le premier atelier drag-king qu'elle a fait lors du festival LGBT de film Pink Screens, qui était à Bruxelles en 2004. Et c'est un voyage à travers le genre, à travers son histoire à elle et celle de Frida Kahlo. Donc l'expo s'appelle « Ode à la moustache de Frida Kahlo ». Donc ça sera du 24 juin au 9 juillet au Centre LGBTI. Il faudra venir voir. Et le 3 juillet, on organise... alors ça y est, c'est la première fois que je le dis. On n'a pas encore fait la com, donc c'est une avant-première. Le 3 juillet, un atelier drag-king avec Isabelle, et qui sera au Centre LGBTI aussi, de 10h30 à 16h. Et à 16h, donc là, on est en mixité, meuf gwyn trans. Et de 16h à 17h, il y aura une rencontre avec les kings, et là, en toute mixité. Donc,
d'accord.
Où tout le monde pourra rencontrer les kings et discuter avec eux.
Alors, je me souviens que la fois dernière, lorsque le C2L est venu, c'était aussi, il y avait un atelier drag king. Donc, ça marche bien, les ateliers drag king.
Ouais, il y a des envies, il y a des... Après, l'objectif avec ça, ça serait... là, je lance l'info aussi. Ça serait de monter un groupe d'ici la Pride, qui défilerait, un groupe de kings qui défilerait sur la Pride, et un groupe qui continuerait aussi à faire du king sous forme de cabaret ou autre de performance.
Ouais.
Ouais, c'est une envie par plusieurs... Enfin, collectif dans plusieurs, que ce soit les lesbiennes, enfin dans le milieu, quoi. C'est important le king. Enfin, moi-même, j'ai fait un atelier king, pas avec Isabelle, mais le premier atelier que j'ai fait, c'était fort. Enfin, de déconstruire les stéréotypes, bien sûr, de genre, et aussi surtout de s'approprier les codes de la masculinité. Que ce soit déjà par des échanges sur déconstruire le genre et la masculinité, mais aussi par le maquillage, par le costume. Et aussi, on parle des 3B. Les 3B, donc les 3B, c'est bandage, se bander les seins, et pour faire ressortir les épaules, la barbe, et donc se faire une barbe.
Oui.
Et la bite. Donc, on se fabrique une bite qu'on porte.
D'accord.
Et donc, rien que ça, eh ben, c'est... Waouh.
Ça change tout.
Ouais. C'est pas mal, quoi. C'est un empowerment assez puissant. Et moi, quand j'ai fait cet atelier, ça a révélé la puissance. J'ai compris qu'est-ce que c'était la puissance.
Ouais. Nous, on ne s'en rend plus compte, Bernardo. On est né avec, alors.
Donc, ça, voilà, pour la quinzaine et les activités du collectif. Sur 2016-2017, on a un grand projet aussi avec la bibliothèque Jean Massé et les bibliothèques de Lyon. Du coup, parce qu'ils sont sur le thème démocratie et des politiques et formes sociales alternatives, ça va se dérouler de automne 2016 à février 2017. Et on leur a proposé notre expo Stonewall. On leur a proposé aussi, parce qu'on est en plein sur retracer l'histoire militante lesbienne lyonnaise, donc par des interviews, interviewer des mémoires lesbiennes qui ont vécu le militantisme et la vie culturelle lesbienne à Lyon. En fait, on veut retracer quels étaient les lieux, les associations qu'il existait, où est-ce que les lesbiennes se retrouvaient, les médias qu'il y avait au niveau radio, au niveau librairie aussi. Et du coup, avec la bibliothèque, ils nous ont proposé
un partenariat.
Ouais, numérique.
D'accord.
Donc là, on part sur faire une carte interactive pour retracer sur Lyon. Justement, on pourra voir, à tel
lieux,
endroit, il y a
etc.
eu un bar lesbien,
ouais.
Là, il y avait une association, se retrouver,
ouais.
Et ça sera une carte interactive où tout le monde pourra voir toute la vie lesbienne qu'il y a eu et qu'il y a aujourd'hui. Donc,
Alors nous, on avait reçu à l'époque, il y a quelques années de ça, déjà Antoine Didier qui avait écrit un livre donc, sur la vie homo à Lyon. Dans les années 70,
ouais.
Et dans son livre, il évoque au niveau des associations, surtout plus au niveau des associations que sur les autres parties de son livre, qui sont plus consacrées aux établissements. Alors, il s'agit plus d'établissements gays que d'établissements gays d'ailleurs, mais dans les associations, il rappelle en tout cas l'existence à côté du GLH d'un groupe de paroles de femmes qui éditait à l'époque, de femmes lesbiennes donc, hein, qui éditait un petit fanzine mensuel, Femmes entre elles ou quelque chose comme ça. Il faudrait que je retrouve exactement le nom, ce serait intéressant. Enfin, ça, je sais que vous allez le faire parce que vous allez trouver tout ça sans problème. Et puis, on avait aussi parlé aussi de. Une des toutes premières Gay Pride a lieu, entre guillemets, enfin c'était pas une Gay Pride à l'époque, on disait même pas Gay Pride ni Marche des Fiertés, encore moins. Il y a eu une manif, mais ça c'était dans les années 80, c'était en 81, une manif concernant donc un couple de femmes dont l'une avait été mariée, divorcée, a eu des enfants donc de son mariage. C'est donc trouver une partenaire féminine dont elle est tombée amoureuse, elles se sont mis en couple, elles ont forgé un projet de vie. Et ça, elles étaient de Saint-Étienne dans les années 80. Puis il se trouve que le mari a fait appel à la justice pour enlever les enfants au couple de femmes, disant que les enfants ne pourraient pas être élevés correctement par leur mère, etc. En quelque sorte, il souhaitait la déchéance de maternité, si on peut dire. Voilà, et récupérer les enfants. Alors je ne sais pas quelle a été la décision. Si, la décision de justice, elle est dans le sens. C'est pour ça qu'il y a eu une grosse manif à Lyon qui avait réuni près de 3 000 personnes, 2 ou 3 000 personnes. J'avais des pancartes hétéro, c'est trop, des trucs comme ça. Et qui avait été donc une manif organisée par les GLH, le GLH de Lyon et le comité des femmes, effectivement. Ça fait partie aussi du patrimoine lyonnais militant, et ça concerne plus particulièrement les filles, puisque c'était un groupe de femmes qui était mis sur la sellette à l'époque. Voilà, mais c'est très intéressant. Nous, on aime bien ici, enfin moi j'aime bien l'aspect patrimonial, l'aspect histoire, donc je trouve que c'est un projet super intéressant, donc on suivra avec énormément d'attention le progrès. Puis l'idée de la carte interactive, c'est une excellente idée. C'est-à-dire, on pourra cliquer, on va dire, ah là, il y avait un bar, là, une boîte.
C'est ça.
Ouais. Là, l'association, hein, avec des témoignages en plus.
Oui,
non, c'est bien d'en retrouver des témoignages.
Oui, là, on a commencé à réaliser les interviews. Après, bien sûr, on demandera aux personnes si elles veulent que ça soit public ou pas.
Oui.
Mais je pense, oui, effectivement, ça serait intéressant d'avoir même des extraits et d'entendre les personnes parler de lieux qui ont existé, de comment ça vivait, même au niveau de ça aussi, au niveau de la communauté lesbienne, s'il y avait des bouches, des femmes, des racisés, des trans, comment ça vivait ensemble, en fait. Et... ouais, je pense que ça sera très, très, très intéressant, ouais.
Alors, Vic, tu as évoqué aussi l'exposition Stonewall. Alors, c'est une exposition dont vous êtes les créatrices au CBZ.
Avec Chrysalide et Rimbaud.
Avec Chrysalide et Rimbaud, l'association Rimbaud. Donc, c'est une exposition qui a pour but de faire redécouvrir, je dirais, les événements de Stonewall, mais sous un prisme différent un peu, puisqu'on parle beaucoup de la libération gay, mais en fait... On sait qu'à Stonewall, beaucoup de ceux qui ont jeté des cailloux étaient trans, étaient des prostituées, des trans, etc. etc. Et c'est une exposition donc, que vous avez créée et qui marche bien, je crois, puisqu'elle tourne un peu partout en France.
Ouais. Et là, elle est à transposition. Là, elle va revenir du 24 juin au 9 juillet. Elle sera au Feuillant. C'est Rimbaud qui va l'exposer. Et après, à la rentrée, il y a Les Invisibles de Stonewall qui nous l'ont demandé. Elle sera exposée à l'Université Lyon 2.
Ouais.
Et il y aura sûrement un autre partenariat avec, sur Annecy, ouais, pour l'exposer. Mm-hmm. Et voilà, la bibliothèque aussi, comme j'ai nommé à l'automne 2016. Je pense que ce sera plutôt février 2017. Donc oui, c'est une exposition qui marche. C'est,
Est-ce qu'elle s'étoffe au cours des années? Parce que ça fait quand même un certain temps qu'elle existe, cette exposition.
Oui, elle s'est étoffée sur les droits LGBT. On a fait une partie pour justement mettre à jour les droits LGBT qui avaient été acquis. Elle s'étoffe comme ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a aucun texte qui a été traduit en français sur Stonewall. Donc, c'est les copines à l'époque, quand elles ont fait plein de recherches. Elles sont allées aussi aux archives à San Francisco. Et il y a plein de traductions qui ont été faites pour réaliser l'expo. Et le collectif lesbien a, ça fait partie de ses objectifs pour 2017, d'éditer une brochure retraçant justement l'expo et Stonewall en français. Donc, ça, c'est chouette. Parce que ce sera la première brochure. En français, sur Stonewall. En revenant sur la bibliothèque et ce projet-là que je disais, démocratie, forme sociale alternative, il y aura sûrement aussi une projection. Alors peut-être faire venir le film de Stéphane Gérard, « Rien n'oblige à répéter l'histoire », avec aussi un débat, une conférence, notamment sur les transféminismes. En tout cas, c'est ce qu'on a proposé. Parce que les transféminismes, moi, c'est personnellement, mais aussi, je pense, collectivement, c'est une notion qui est nouvelle et qui est plus inclusive que les féminismes. Dernièrement, il y avait une conférence là-dessus à l'atelier des canulars avec le réseau des géographes libertaires. Et c'était très intéressant. Ils ont édité une brochure sur les transféminismes. Et justement, la notion de transféminisme, en fait, vient des années, on m'a dit, des années 70. Que la première fois, qu'une personne l'a nommée, c'était en Italie. Et ça voulait déjà dire transversalité des luttes. Inclure tous les trans dans le féminisme, inclure aussi la transformation trans-espèce. Et donc, c'est poussé, quoi. Ça va. Ça dépasse le genre, les sexualités, même trans-espèce, on arrive loin, quoi. Et je trouve ça. Je trouve ça énorme, mais génial, quoi, dans le bon sens, quoi. Enfin, vraiment.
Du pain sur la planche, alors, de toute façon.
Ouais.
Puis là, en plus, bon, la quinzaine des cultures qui approche.
Il va y avoir beaucoup de pain sur la planche, ouais.
Alors, je voudrais rappeler aussi quand même que le C2L a des permanences au centre LGBTI,
oui,
toujours.
Tout à fait.
Alors, on peut rappeler les jours, les horaires,
oui,
etc.
Les permanences, c'est le vendredi, troisième vendredi du mois,
ouais,
donc à 19h30. Au centre LGBTI, 19 rue des Capucins, dans Lyon 1er. On a aussi deux réunions par mois, les deuxième et quatrième jeudi du mois, aussi au centre LGBTI, à 19h30. Réunions qui sont ouvertes à toutes, voilà. Et bienvenue à toutes celles qui veulent nous rejoindre.
Et puis, il y a aussi le site. Alors, le site, justement, avant l'émission, je consultais. Et là, il est en test, en fait. C'est une nouvelle pagination.
Et ouais, j'ai fait ça dans la nuit.
Voilà, c'est pour ça que tu m'as dit, j'ai pas dormi. C'est toi qui as fait tout ça. D'accord.
Mais non, c'est... ouais. Bon, ça paraît grand comme ça. Non, mais c'est pas si énorme que ça. Mais oui, il y a l'objectif d'essayer de réactualiser le site, le blog du collectif lesbien et pour nous donner une meilleure visibilité, pour aussi actualiser notre graphisme. On est aussi dans l'envie de refaire notre logo. Et de communiquer aussi par des affiches, des tracts, enfin voilà, refaire notre com et
Ouais, mais en tout cas c'est sympa comme mise en page, parce que c'est très accessible, en fait. D'un seul clic, on peut aller dans n'importe quelle rubrique très facilement, très rapidement. C'est bien fait. Vous allez maintenir cette mise en page, du coup?
Ça a discuté, mais... Ça a discuté. Ça, ouais, il y en a à qui s'appeler, ouais, du collectif.
Ouais. Et moi, je trouve bien. C'est, en plus, c'est un format qu'on voit peu sur le net.
Oui, oui. Non, et puis oui, enfin, je trouve ça bien aussi le fait d'avoir comme ça des images, thèmes, et de retracer finalement, on voit aussi toute l'activité récente et ancienne du collectif, quoi. Et,
ouais.
Et sur plein de thèmes.
Oui, c'est vrai, c'est bien, c'est très convivial, c'est très facile d'utilisation, on a l'information immédiate. C'est bien, moi je vote pour vous garder
ce format.
On peut quand même, on peut dire le nom du...
Oui, le blog. Site.
Même s'il n'est pas encore finalisé finalement, puisque là c'est à l'essai encore. C'est
oui,
un test.
Mais de toute façon c'est la même adresse, donc ouais. C'est collectif-l.blogspot.fr.
Très bien.
Et si vous voulez nous écrire, c'est collectif.lesbien@gmail.com.
Très bien.
Et bon. On a une page Facebook aussi, où vous trouvez facilement Collectif Lesbien Lyonnais.
Collectif Lesbien Lyonnais. Donc, de façon, moi, comme d'hab, je mettrai tous les renseignements sur nos propres sites, hein, la page Facebook de l'émission, le site internet plurielgay.fr. Alors, avant de se quitter, on se saluera tout à l'heure, on a peu de temps maintenant, mais on va écouter une deuxième morceau que tu as amené. Alors, de quoi s'agit-elle ?
Je pense que c'est Savages, hein, et c'est The Answer. Et Savages, c'est un groupe que j'apprécie beaucoup, et c'est quatre très bonnes musiciennes, un groupe de Londres. Et c'est
The
du
Answer.
Bon rock post-rock.
Post-rock. Alors, Bernardo, te trompe pas, c'est The Answer, c'est bon ?
The Answer. If you don't love me, don't love anybody. If you don't love me, don't love anybody. And you're glad it's you, and you're glad it's you, and you're glad it's you, and you're glad it's you.
Pluriel Gay. Daniel Guay.
Sa permanence. Allô, 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 nous sommes en ligne. On discutait avec des geeks et puis je me suis laissé prendre par le... Par, voilà, donc c'était la chanson The Answer.
Ouais, bien de ça. Ça va jusqu'à parler aussi de sexualité déviante.
De sexualité déviante.
Ouais,
d'accord.
Bah parce que du coup, elle parle que voilà, c'était une fille.
Ouais.
ouais, ce que j'avais envie d'aborder vite fait, c'était la sexualité des lesbiennes. Ou bah du coup, c'est vrai qu'on n'a pas de lieu contrairement aux gays de boîte à cul lesbiennes ou les sex parties, bon bah il y en a pas non plus, il y en a pas. Si, il y avait la Bonnie and Clit, il y a un petit bout de temps, oui. Mais les deux dernières Bonnie ont été quand même très soft, même si la dernière était avec une backroom. Donc on peut espérer que dans l'avenir proche, en tout cas moi c'est ce que mon intention aussi de participer à ça, à ce sex empowerment pour les lesbiennes et les meufs, les gwyn trans, c'est qu'on organise des sex parties sur Lyon comme ça se fait à Paris une fois par mois et aussi des ateliers BDSM en mixité choisie meuf gwyn trans. Donc voilà, c'est...
D'accord. Donc l'appel est lancé.
Ouais.
Et donc, Bonnie and Clit, on a reçu les filles de Bonnie and Clit il y a quelques temps, c'est l'année dernière. Et là, elles sont un petit peu en sommeil, mais j'ai l'impression que...
Ça va repartir.
Ça va perdurer. Ouais. les choses se préparent. Très bien. On aura l'occasion d'en reparler, j'espère, en tout cas, ensemble.
Oui.
Et puis, moi, avant de conclure l'émission, je voulais parler donc du Festival Comic Out, qui, pour sa troisième année consécutive, va se tenir donc à Lyon, du 29 mai au 1er juin. Donc, cette année, il y aura plusieurs lieux. Les années précédentes, c'était à la Comédie Odéon. Et cette année, plusieurs cafés-théâtres vont recevoir l'événement, le festival. Donc, je vais citer hein, les lieux, c'est le Rideau Rouge, le Boui-Boui, le Complexe du Rire, les Tontons Flingueurs, où sévit régulièrement notre ami Jeff Jordan, qui chronique ici de temps en temps aussi. Donc, le Festival Comic Out, c'est un festival de café-théâtre, donc, sur des thématiques LGBT. Voilà. Alors, je mettrai le programme en ligne, et puis je voudrais dire aussi que dimanche, sur l'occasion de l'inauguration du festival, je vais aller collecter des interviews, notamment des organisateurs, que je diffuserai la semaine prochaine. On les avait déjà reçus l'année dernière à l'occasion du festival, et cette année, on fait quelque chose un peu différent. C'est nous qui allons les voir pour faire des interviews, etc., etc. Il est temps de conclure donc notre émission. Merci en tout cas, Vic, d'être venu. J'espère te revoir souvent à l'émission pour parler des thématiques qui vous sont chères, ces deux ailes.
Je sais que veux qu'il y ait une fille qui fasse l'émission avec toi, je le sais.
Oui, voilà, parce que bon, c'est pas que... Voilà, Laurence, je l'adore, je t'aime, Laurence, mais je ne sais pas si tu vas revenir tout de suite. Donc, je voudrais bien, effectivement, avoir... alors, je ne sais pas sous quelle forme ça peut prendre, mais en tout cas, la parole d'une fille, etc., voilà, je t'en ai parlé, Vic, je fais la proposition, ça sera avec beaucoup de plaisir, on verra sous quelle forme ça peut se faire. Après, je voudrais pas non plus, toujours pareil, hein, jouer les phallocrates et puis intervenir dans une émission où mon statut d'homme ferait que je prendrais encore une fois le crachoir, laissant les filles à l'écart, parce qu'on sait très bien que le lesbienne et gay reproduit souvent le couple traditionnel.
Ouais. J'ai suffisamment de caractère pour pas te laisser faire ça.
Très bien, alors ça me va très bien comme ça. Bon, on va peut-être écouter un dernier morceau. Alors, merci Vic d'être venu, à très bientôt. Et puis, donc je remettrai toutes les informations sur le C2L, sur les sites. On va peut-être écouter, mais elle va être coupée, un troisième morceau. Oui, Bernard ? Comment il s'appelle ce troisième morceau, petit Bernardo ? Mais elle sait, Vic.
Tarifa.
C'est Mensch.
Mensch.
Groupe lyonnais.
D'accord. Lyonnais. Ah oui, je connais. Enfin, je connais de nom.
L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.